France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle Marie-Joan Pires. Je suis née à Lisbonne le 23 juillet 1944. Et j'ai essayé de vivre jusqu'à présent, guidée par l'art en général et la musique en particulier.
Dans toute cette vie que vous avez partagée à la scène, il y a des grandes rencontres, Maria-Joan Pires. Peut-être parler de quelques affinités électives, je pense à Claudio Abbado.
Oui, je peux dire qu'il y a eu plusieurs chefs d'orchestre avec qui j'ai eu une vraie communion musicale. Mais avec Abbado, c'était très fort et très facile en même temps. Parce que nous étions très différents l'un de l'autre. On a développé une belle amitié. Qui avait sa propre beauté parce que nous n'étions pas très proches. Ça veut dire qu'on n'a jamais, comme il a eu avec d'autres musiciens probablement, il a été peut-être plus proche, plus de conversation, plus de partage de tout. Mais cette amitié était vraiment belle parce qu'elle était pure, très simple, sans conflit, sans problème. Et on avait toujours cette capacité de communiquer. Et à travers la musique, c'était très facile. Donc, j'ai tellement appris avec lui, probablement dans mon âge adulte. Qu'est-ce qui m'a marqué le plus? Les musiciens qui m'ont marqué le plus, c'était lui et Brendel. Lui, je le connais, mais je n'ai jamais eu la chance d'avoir des cours avec lui. J'aimerais beaucoup encore, mais peut-être ça se fera un jour, on va voir. Il a été mon dernier professeur.
Professeur par le disque, par oui. Le concert.
Oui.
Qu'est-ce qui vous touche spécialement dans le piano de Brendel?
Je crois que tout. Cette capacité de vérité qui est incroyable. Et cette intensité en même temps. Cette absence de superflu, cette absence... Oui, superflu, superficiel. Cette absence de choses inutiles. Cette capacité de rester collé à la chose... sans rien d'autre, c'est nu. Mais c'est tellement beau, ça apporte. C'est comme nettoyer une cathédrale. Tout d'un coup, on voit sa force.
Quand on pense à Brendel, en tout cas personnellement, je pense aussi à une forme de poésie, à une forme d'humour.
Bien sûr, bien sûr.
Ça, c'est indissociable de son interprétation et de ce qu'il choisit, parce que vous avez en partage tout un répertoire. Beethoven, Mozart, Schumann, Schubert, ouais. Bach, évidemment, ouais. Et Chopin. On pense à ces affinités que vous avez développées avec ces compositeurs.
Oui.
La partie de fantaisie. est très importante. Vous la retrouvez différemment, j'imagine, chez chacun, mais elle est chez Schumann, elle est chez Mozart. Elle est nécessaire pour vous, cette fantaisie?
Je ne pense pas que je saurais expliquer ça. Parce que, oui, probablement, il y a les musiciens qui jouent avec grande rigueur et sans fantaisie, sans humour, sans âme. Il y a d'autres qui jouent très librement, avec beaucoup de fantaisie, beaucoup d'humour, beaucoup d'esprit, et qui sont aussi mauvais. Alors, qu'est-ce qui est bien? C'est la rigueur, la fantaisie, c'est l'équilibre entre les deux. C'est peut-être même pas ça. C'est la transmission. C'est pouvoir dire ce qui a été dit. Donc, vous avez besoin de tout ça. Vous avez besoin de créativité, de fantaisie, d'idées, d'esprit, d'humour, de tout. Vous avez besoin de comprendre tout ça. Au fond, je sais pas, mais on a un métier qui est très proche de celui de l'acteur. Moi, j'aime bien me comparer aux acteurs. Parce que tous les grands acteurs que j'ai vus dans ma vie, ils avaient exactement les mêmes qualités et les mêmes caractéristiques des musiciens qui sont des très bons musiciens. C'est la même chose.
C'est-à-dire se mettre dans la peau.
Oui. Et c'est ne pas ajouter. C'est intéressant de réfléchir à ça parce que moi, j'imagine toujours l'interprétation comme une conversation entre amis où chacun écoute l'autre. On s'entre-écoute et on se comprend.
Mais on écoute l'œuvre et l'œuvre vous écoute. Chacun doit avoir sa place aussi.
Mais c'est là où est le doute ou le mystère. C'est où la limite pour l'interprète ou pour l'acteur, où il peut mettre de soi-même. Ce n'est que quand le soi-même n'existe pas qu'il peut interpréter. Mais en même temps, le soi-même revient à sa place au bon moment. Et à ce moment-là, il arrive et il ne détruit plus l'auteur, le désir de l'auteur ou la transmission de l'auteur. Mais là, il y a des choses qui sont très mystérieuses parce qu'elles sont tellement fines et difficiles à atteindre d'une certaine façon. Parce que où est-ce que j'ai mis de moi-même dans cette interprétation? Quelquefois, mes élèves, par exemple, jouent avec moi, quatre mains. Et pourquoi tu fais ça? Et moi, je dis, je ne sais pas. Allons voir. Allons essayer de voir pourquoi je fais ça. Comme si j'avais ajouté quelque chose qui n'est pas écrit. Du domaine, voilà, de exactement ce que vous dites, de la fantaisie, de l'imagination. Et à ce moment-là, on se pose la question, c'est tellement fin les limites. Est-ce que c'est venu au bon moment ou est-ce que c'est trop tôt? Si c'est trop tôt, c'est mauvais. On ne peut pas arriver, nous, en tant que nous, avant que toute la chose soit vraiment mise en place.
Cet effacement qu'il faut pratiquer sur soi-même, d'arriver à faire ce vide pour laisser la place. Comment vous le transmettez ça à vos élèves, Maria-Jo Pires?
J'essaie de mon mieux. Vaste programme. J'essaie de mon mieux, mais il y en a qui apprennent très vite ça, et d'autres qui ne vont jamais apprendre, et d'autres qui vont un peu comprendre, mais vont faire leur choix.
Et vous, est-ce qu'il y a des moments où vous n'y arrivez pas?
Je ne me permets pas ça. Je suis un peu dure avec moi-même. Je ne me permets pas d'être présente avec mon ego et au moment où il ne faut pas. Je ne me permets pas ça. Je me permets plutôt le contraire, quelquefois, d'être trop absente au moment où peut-être je peux déjà. Mais je me suis permis ça dans le passé. Mais je n'aime plus ça. Donc, je ne dis pas que je fais bien, je dis que je fais comme je crois que c'est bien.
Est-ce que dans ces cas-là, quand on arrive à ce degré-là, on peut être submergé par la musique?
Oui, on peut tout. On peut être submergé, on peut être influencé au point où on peut changer notre vie, nos perceptions, notre façon de voir, d'écouter. On peut être influencé. Mais vous savez, tous les chefs-d'œuvre, toutes les œuvres d'art, quand on les voit, quand on les entend, quand on les comprend, elles ont un impact très grand sur nous. Même si vous regardez un très beau film, merveilleux, vous rentrez à la maison et vous êtes prise. Vous avez un livre extraordinaire, vous êtes prise pendant des semaines, quelquefois. Moi, j'aime ça. J'aime sentir que je suis flexible. J'aime penser ou essayer de ne pas être esclave de mes propres rigidités, de mes propres idées arrêtées. J'aime bien croire que je peux changer à tout moment. J'aime aussi l'idée de pouvoir changer d'idée, de revenir sur mes idées et de changer d'opinion. J'aime changer d'opinion.
Les grands entretiens, Judith Chen.
Il y a eu des relations musicales très différentes que celles que j'avais avec Claudio Abbado. Par exemple, ça me vient à l'esprit Bernard Haitink, avec qui j'ai fait beaucoup de choses dans la plus grande discrétion, toujours les concertos qu'il voulait, un peu. Moi, je me suis mise à son service un peu de faire ce dont il avait envie. Mais de là est venu une vraie communion, quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est quelqu'un qui m'a appris, on apprend toujours avec tout le monde qui est vraiment un vrai artiste, mais j'ai appris la sobriété des mouvements, ça veut dire du geste, de tout ce qui est superflu. On n'a besoin de rien, ça c'est le minimum, et le minimum, c'est le maximum. Puis vous voyez des gens plus jeunes comme Daniel Harding, avec qui j'ai toujours une joie immense de jouer, parce qu'il a cette explosion, cette capacité de s'exprimer, qui est l'autre côté de... Mais qui a une valeur inestimable, parce que cet enthousiasme, cet amour des choses, cette capacité de... Et il y en a d'autres... Ça, c'est juste pour parler des opposés. Des gens qui sont des vrais artistes, des vrais musiciens, et qui s'exprime d'une façon tellement différente.
Thank you.
quand vous enregistrez Mozart à 20 ans d'écart, est-ce que c'est aussi cette idée de pouvoir revenir de un enregistrement, parce que Maria Joao Pires, vous aimez le studio.
Oui, j'adore.
L'enregistrement, c'est la photo d'un instant aussi.
Oui, oui, c'est ça. Je sais que ça change et j'aime que ça change. Et comment je le vois, je pense qu'il n'y a pas de vérité. Ce qui est important, c'est au moment où vous enregistrez que vous soyez vrai à ce moment-là. Il y a un moment, c'est comme une photo. Si vous continuez à faire des photos, les jours d'après, elles vont être différentes. Donc, ça va être différent, mais ce moment-là, il a une âme par sa vérité.
Le studio et le calme du studio, ça ?
J'aime bien le calme, oui. Et j'ai toujours l'impression, quand je joue en studio aussi, que je partage avec. Parce que c'est quelque chose qui est fait pour être écouté.
Vous pensez
Je le sens.
Oui.
Plus que penser, je le sens. Je sens la présence des gens. Et ce silence du studio est très agréable.
On vous associe très souvent à Mozart. Puis on vous associe aussi, naturellement, à Schubert, à Beethoven. Lequel serait peut-être le plus intime, celui dont vous ne vous passez pas? On n'a pas parlé de la musique de Bach non plus.
J'ai très peu enregistré Bach et j'ai très peu joué en public. Déjà parce que je ne joue pas Bach par cœur, donc j'ai l'habitude de jouer Bach un peu à la maison et pas en public. C'est un handicap que j'ai peur de jouer par cœur. Et par rapport à Mozart, je ne pourrais pas jouer que du Mozart, ça je ne pourrais pas. Je pourrais jouer que du Schubert. Par exemple, je pourrais très bien, si on me dit maintenant c'est interdit de jouer autre compositeur, je suis parfaitement heureuse, ou même Beethoven. Mais Mozart, je ne pourrais pas. Ça veut dire, ma relation avec Mozart, elle a un temps. Un temps. Et quand j'ai décidé de ne plus jouer, j'ai quand même joué des concertos, je n'ai pas fait un récital, des sonates, je reviens maintenant, je recommençais à jouer des sonates. Mais c'est toujours des temps courts, même si j'ai une affinité. J'aime profondément Mozart, mais je ne peux pas passer trop de temps. Aussi pour enseigner, c'est drôle parce que j'évite que si j'ai un cours où j'ai 6 ou 7 jeunes qui viennent travailler, je n'aime pas que chacun apporte du Mozart. Parce qu'à ce moment-là, on va passer beaucoup de temps avec Mozart. Et moi, à un moment donné, je perds toute l'inspiration, toute l'envie de continuer, même si j'adore le faire, mais dans un temps limité. Intéressant. C'est des choses qui n'ont rien à voir avec rien. C'est simplement chacun de nous.
Affinités. Vous avez évoqué plusieurs chefs d'orchestre avec lesquels, en effet, il y avait, on peut penser à, je ne sais pas si je me trompe, mais à Emmanuel Krivine, à Ricardo Chailly, peut-être aussi.
Oui.
Enfin, beaucoup de chefs. Il y a aussi les musiciens avec lesquels vous avez partagé de la musique de chambre. Évidemment, je pense aussi à Augustin Dumay.
Bien sûr. Oui. On a fait quand même un chemin très long ensemble de discographie, de concerts, et je pense à ça avec beaucoup d'affection parce que je pense que c'était un vrai partenaire dans la musique qui a été, bien qu'on avait souvent des idées très différentes et on avait des façons de voir la musique, mais c'est quand même par là qu'on avance. dans la musique de chambre, c'est faire des compromis sans jamais oublier la vraie musique et la vérité de la musique.
Vous aviez dit que vous aviez fait votre fin d'études autour de la figure de Brahms, mais il y avait beaucoup de choses qui vous échappaient de par la petitesse de vos mains dans le répertoire de Brahms. Mais vous en avez quand même, du coup, là aussi, en musique de chambre.
C'était plutôt un travail intellectuel. Dans musique de chambre, voilà. j'ai fait...
Avec Augustin Dumais, c'est pour ça
avec
que j'y pense.
Augustin,
les sonates magnifiques.
Et j'aimerais encore reprendre quelques morceaux de Brahms et apprendre peut-être des intermèdes. Voir, je peux faire des petits arrangements qui ne s'entendent pas trop et qui peuvent être bien. Bien, il faut aussi apprendre dans la vie à être heureux d'écouter les autres. Je pense que c'est très important. Et ne pas toujours vouloir jouer ce qu'on aime. On peut écouter les autres et on peut être heureux à travers ça. Parce qu'au fond, c'est drôle. Moi, j'ai toujours pensé que l'écoute et le jeu sont des choses, une est beaucoup plus physique. Interpréter et jouer un instrument est beaucoup plus physique que être assis et écouter. Mais au fond, si on voit bien, et aujourd'hui avec les neurosciences on peut découvrir des choses extraordinaires, l'auditeur, il vit physiquement la chose, peut-être d'une façon moins active et musculaire, mais au niveau nerveux et au niveau des émotions, c'est très corporel aussi. Donc, moi, j'aimerais beaucoup faire des études là-dessus. J'avais commencé avec le professeur Damasio, et puis on a arrêté, parce qu'on est quand même très distant. Et j'aimerais encore, si j'ai la capacité, de me lier à des neuroscientifiques pour faire des expériences et pour découvrir des choses qui sont très importantes.
Donne la possibilité de vous dire que peut-être à nouveau un jour vous ne jouerez plus et que vous ne serez pas moins heureuse.
À mon âge, on ne peut pas espérer de jouer très longtemps. Mais
le piano peut se jouer.
Oui, mais vous savez, je pense que maintenant je suis arrivée au moment où je ne regrette plus rien du tout. Ça veut dire je ne regrette plus si je joue, si je ne joue pas, si je fais quelque chose que j'aimerais faire mais je ne peux pas faire. Je n'ai plus ces regrets. Je vis plutôt le quotidien et j'apprécie les choses d'une autre façon. Quand on est jeune, on est très, très engagé. Je suis encore très engagée dans les projets, mais avec moi-même, je suis beaucoup plus pacifique. Ça veut dire je suis moins active dans le sens où il faut absolument faire ça. Si on ne peut pas faire, ça ne fait rien. Il y a beaucoup de morceaux que j'aimerais jouer et là, maintenant, plus que jamais, je ne peux plus le faire, parce que ça se dégrade quand même. Et si on a déjà des petites mains et des petits problèmes, après, avec l'âge, ça se dégrade. Mais ça ne me fait pas souffrir.
Thank you.
C'est sur ce rondo du troisième concerto de Beethoven avec l'orchestre symphonique de la radio suédoise dirigé par Daniel Harding que se referme le quatrième épisode des Grands Entretiens avec la pianiste Maria João Pires. Réalisation Perrine Mingui, prise de son Pauline André, mixage Jean-Michel Bernot, attaché de production Flora Sternadel. Suite et fin de ce portrait demain à la même heure. Podcast et réécoute sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.